die Kulturen ins Rüebliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Am Mikrofon begleitet euch Sylvain Amos. Amis fidèles auditeurs d'ici d'ailleurs en Afrique, bonsoir. Bienvenue à tous dans Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain de Radio Canal K en Suisse. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avons les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. C'est sur cette citation de Jomo Kenyatta, père fondateur du Kenya, que nous démarrons tous ensemble avec vous cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Au sommaire de cette édition, la célèbre mort de Muammar Kadhafi, le guide libyen Bruno Ben Moubamba, ancien candidat à l'élection présidentielle au Gabon et panafricaniste, nous livrera ses premières réactions après la mort de Kadhafi jeudi dernier. Il sera en ligne en direct depuis la France. Nous ferons également un tour au Cameroun où les élections et les premiers résultats de l'élection présidentielle ont été annoncés hier, donnant une première victoire à Paul Biya. Les États-Unis ont estimé jeudi dernier dans une déclaration que l'élection présidentielle du 9 octobre dernier au Cameroun était entachée d'irrégularités à tous les niveaux. L'opposition qui accuse le pouvoir d'avoir verrouillé l'élection présidentielle au Cameroun en faveur du président Biya et Paul Biya qui a 78 ans au pouvoir depuis 82 et qui brigue un sixième mandat a annoncé qu'elle rejetait par avance les résultats du scrutin qu'elle qualifie de mascarade. Madame Kawala, candidate de Cameroon People's Party et à l'élection présidentielle dernière au Cameroun, on sera également l'invitée de Fenêtre sur l'Afrique. L'équipe de production est toujours la même. Gisela Rosato est à la supervision générale. Josué Maoli et Esteban Gagnon assurent la programmation musicale. Collaboration de Romain Koudodi en ligne depuis Bonn en Allemagne. Romain, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère Amos.
Merci et de nous accompagner en direct depuis l'Allemagne. Et sans oublier bien sûr le soutien de nos correspondants au Togo, Fabi Kouassi et Rodrigue Lawson. Fenêtre sur l'Afrique est réalisée et présentée par Sylvain Amos. Encore une fois, bonsoir Tripoli, Dakar N'Djamena, Niamey Lomé, amis du continent noir, bienvenue au programme. Et nous démarrons tout de suite, comme toujours d'ailleurs, avec l'éditorial de Romain Koudodi qui s'indigne et s'inquiète pour l'Afrique après la mort de Kadhafi. Muammar Kadhafi, du dinosaure au martyr. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. André Marlow. Dans l'après-midi du jeudi 20 octobre de l'an 2011 dernier, le héros ou martyr, selon l'angle sous lequel on le situe, Kadhafi est tombé sous la frappe de l'OTAN et des axes du mal. En bref, des ennemis pilleurs de notre continent. Au-delà du fait que le guide a été un dictateur invétéré et allergique à la démocratie, il y a lieu aussi de reconnaître que l'homme avait un penchant pour l'Afrique. Dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne, la largesse du guide n'est pas sans compter. De la création des écoles en passant par l'investissement dans les hôtelleries en Afrique, il a été présent. Quel que soit l'homme devenu aujourd'hui paria, paix à son âme. Amis auditeurs, de la chute du guide libyen à la responsabilité de la France mafieuse, ouvrons tous ensemble une fenêtre pour scruter à la loupe les non-dits, c'est-à-dire ce que les radios impérialistes vous refusent de dire. En vérité, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, FIDH, et la Ligue des droits de l'homme, LDH, ont déposé mercredi dernier une plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance de Paris, mettant en cause la société française Amesis, filiale de Bull, pour complicité d'actes de torture en Libye. Fin août dernier, au cœur de la capitale libyenne, dans les bâtiments abandonnés du centre de surveillance, de communication et de l'ancien régime libyen, des journalistes du Wall Street Journal ont découvert des documents prouvant que la société française avait conçu en 2007 et installé un an plus tard du matériel d'espionnage électronique et de surveillance d'Internet au régime du colonel Kadhafi, un programme baptisé Eagle. Eagle avait donc pour vocation d'intercepter et d'analyser l'intégralité des télécommunications à l'échelle du pays, d'un pays tout entier. La question du rôle de l'État français se pose ici. Il est en effet difficilement concevable que de telles technologies aient été vendues sans l'aval officiel de l'État français. Or, s'il reconnaît la vente du logiciel Eagle à la Libye, le ministre des Affaires étrangères français dément toute implication. Son porte-parole a assuré au journal Le Monde que le logiciel Eagle ne faisait pas l'objet du continent, du contrôle plutôt à l'exportation et que l'État français n'a pas de visibilité sur son exportation. Il contredit ainsi la société Amesis qui affirme avoir obtenu une autorisation officielle. Mais au-delà du cynisme de la France mafieuse, l'histoire retiendra que la page Kadhafi vient d'être tournée avec la complicité des actes du mal, ridiculisant ainsi les fameuses communautés africaines à l'instar de la CEDEAO, de l'Union africaine, qui ne sont que de véritables valets répondant aux bottes du colon. Kadhafi, jusqu'au dernier souffle, a combattu et est mort en martyr, les armes à la main, défiant ainsi la Cour pénale internationale, la Haye et autres institutions, instruments d'humiliation des Africains. En clair, il n'y aura pas de procès pour Kadhafi. Romain Koudjadi.
La politique américaine, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Nous vendons les armes pendant que nous nous battons et puis nos richesses. Et c'est du sexe, puis de voir la pub toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique America Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses, pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa. Africa, c'est du blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France Africa, c'est du blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es.
La politique France-Afrique chantée par Tikenja Fakoli, l'Ivoirienne. La mort du guide libyen Muammar Kadhafi est annoncée jeudi 20 octobre dernier par les grands médias internationaux. Si dans les pays où s'est déroulé le printemps arabe, c'est un soulagement qui domine après l'annonce de la mort de l'ancien dictateur libyen, dans la plupart des pays africains, c'est la tristesse et désolation. Il faut également souligner que l'Afrique a été partagée depuis le début de cette insurrection populaire il y a environ 8 mois. Selon des informations au Tchad comme au Niger, c'est la tristesse. Une catastrophe pour ces pays. Car Muammar Kadhafi avait soutenu plusieurs projets pour le développement de ces pays comme d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. La guerre en Libye a fait plusieurs milliers de morts et de déplacés. Certains observateurs mettent également en cause le rôle de l'OTAN. Un rôle controversé alors que sa mission devait être de protéger les populations civiles. L'Alliance Atlantique, pour des raisons que tout Africain averti n'ignore pas, a plutôt apporté un soutien indéfectible aux insurgés qui a conduit à la mort de Muammar Kadhafi. Kadhafi est-il devenu un martyr pour le peuple libyen et pour l'Afrique? L'intervention militaire de l'OTAN a-t-elle enfin apporté la démocratie en Libye après la mort de Kadhafi? Ce sont là les questions auxquelles nos invités tenteront de répondre tout au long de cette émission. Je rappelle que nos invités sont pour la plupart des panafricanistes.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Eh bien, encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité pour cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Ici, même au studio, j'ai M. André Louimbé, qui est président du CRAN et carrefour de réflexion et d'action contre le racisme. André Louimbé, bonsoir.
Bonsoir, M. Amos. Merci de m'avoir invité.
Merci d'être au studio avec nous. Donc, avant de prendre ou avant de discuter avec M. André Louimbé, nous avons tout de suite en ligne, en direct depuis la France, M. Bruno Mbamba, que nous prenons tout de suite. Bonsoir, M. Bruno Mbamba.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique en direct depuis la France. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2009 au Gabon. Vous êtes actuellement un responsable du mouvement africain français. Alors, dans la journée du jeudi dernier, la mort du colonel Kadhafi a été annoncée par les médias internationaux. Dira-t-on que la guerre en Libye est finie en Libye? Est-ce que le peuple libyen retrouve-t-il enfin sa liberté? Bruno Mbamba.
Je suis en effet un des responsables du mouvement des Africains français, dont la présidente est Madame Calixte Payala. Au moment où je vous parle, nous sommes en pleine réunion et nous sommes en train d'évoquer justement la mémoire du colonel Kadhafi. Vous savez, j'ai toujours lutté pour la gouvernance en Afrique. J'ai critiqué un certain management des dirigeants africains, mais en la circonstance, la violence occidentale contre l'Afrique est beaucoup plus grave que un certain management des dirigeants africains. Je voudrais dire que la guerre n'est pas finie. Nicolas Sarkozy a été désigné en 2007 comme celui qui allait continuer les guerres de George Bush, père et fils, dans le monde et notamment en Afrique. Le colonel Kadhafi a été tué, son corps a été exposé comme un steak, comme de la viande, alors même que les Français n'ont jamais exposé le corps du maréchal Pétain qui avait livré à la mort des milliers de Juifs, alors même que le général Pinochet qui a tué des milliers de Chiliens pour le compte de la violence occidentale n'a jamais été exécuté. Cela signifie ceci, l'Afrique est en danger. On veut nous tuer, on veut nous coloniser. Voilà pourquoi la guerre ne peut pas s'arrêter. Les Africains, les Libyens doivent résister. Nous ne pourrons pas nous faire exécuter sans réagir. Toutes ces images dégradantes qui ont été diffusées du colonel Kadhafi, un chef d'État afro-arabe, traité comme un moins que rien, ont comme objectif de nous démoraliser. Voilà pourquoi j'appelle tous les Africains et tous les amis de l'Afrique à enlever de leur site, à enlever de leurs écrans toutes les images dégradantes de Kadhafi, toutes les images dégradantes de l'Afrique. C'est un acte de résistance morale nécessaire. Mmh. On en veut à notre pétrole, on en veut à nos richesses. On nous considère comme des primates à peine évolués. Nicolas Sarkozy est un voyou, c'est un hooligan de la politique. Il a décidé d'en finir avec les résistants africains. Ne parlons plus de dictature, ne parlons plus de ceci ou de cela, car l'Occident est en guerre depuis plus de 10 ans. Et comme par hasard, l'Occident s'appauvrit et est en crise. L'Occident a décidé de redevenir barbare. C'est le syndrome des Vikings. C'est le syndrome de Conan le barbare, cette espèce de Terminator incarné par l'acteur américain Schwarzenegger, qui tue des métèques sur son passage pour tout simplement évoquer la puissance de la conquête. Mmh. Nous sommes en danger.
Bruno Mubamba, feu Kadhafi a été économiquement et politiquement très influent dans beaucoup de pays africains. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique a perdu un grand homme ou simple ou tout simplement, est-ce que l'Afrique vient de se libérer d'un dictateur de plus?
Non, l'Afrique a perdu un grand homme. Un homme qui avait des défauts, mais pas plus que le dictateur de la Biélorussie, pas plus que le dictateur de Birmanie, pas plus que la Corée du Nord. L'Afrique a perdu quelqu'un qui a donné des milliards de dollars aux Africains, quelqu'un qui a eu une vision, quelqu'un qui voulait une armée africaine, qui avait pensé la défense militaire du continent. Il avait ses défauts, c'était un potentat, mais quel pays n'a pas eu de potentat? L'Europe a eu ses rois, la Russie a eu son Staline. Ben, ça ne signifie pas que même la France a eu son maréchal Pétain qui a fricoté avec Hitler. On n'a jamais massacré le corps de Pétain et le traîné dans les rues. Les Français ne l'auront pas, ne l'auraient pas accepté. Donc, ce faisant, Kadhafi a eu ses errements, il les a rattrapés. Il aurait pu fuir au Venezuela, il aurait pu fuir n'importe où et vivre comme un ennemi du gauche. Il l'a dit, il mourait sur sa terre comme un martyr, et il l'a montré, il n'a pas fui. Il devient finalement un modèle pour la résistance africaine. Ce qui est choquant, c'est de voir comment les dirigeants africains, les responsables de l'Union africaine, sont des ingrats, sont des contre-maîtres tout simplement du maître blanc qui est là pour les réduire en esclavage. Ils n'ont même pas le courage de dénoncer cet assassinat, cette humiliation universelle d'un chef d'État africain, d'un chef d'État afro-arabe, parce que tout simplement, ils n'ont pas d'honneur. Eh bien, les nouvelles générations doivent relever le gant. Nous ne sommes pas que des mines, nous ne sommes pas que des puits de pétrole. Nous sommes des êtres humains. Nous aspirons à mener une vie normale. Qu'on ne vienne plus nous chanter le chant de la démocratisation comme si c'était une religion universelle qui expliquerait après qu'on nous bombarde, qu'on nous tue, qu'on envoie des obus avec de l'uranium appauvri. Je ne vois pas ce qu'il y a de démocratique et d'honorable à ce qu'un avion français, un Mirage, canarde un homme désarmé dans son véhicule. Ce n'est pas acceptable. Nous ne devons pas nous laisser faire. Mmh. Moi, je n'ai jamais aimé le colonel Kadhafi parce que j'ai toujours été pour un management moderne, pour une ouverture. Mais c'est quelqu'un qui est devenu maintenant une référence pour moi parce qu'il est tombé victime de la violence occidentale, comme Lumumba, comme Sékou Touré, comme bien d'autres Africains qui ont essayé de relever la tête et qui ont été écrasés par la supériorité militaire. Mmh. Et la puissance ne suffit pas, il faut que ça cesse. Nous devons nous battre, même si ça doit durer des décennies, des siècles. Nous devons résister. Mmh.
Bruno Mubamba, est-ce que l'intervention militaire de l'OTAN a-t-elle ramené maintenant la démocratie en Libye? Si oui, doit-on dire bravo à l'OTAN, Bruno Mubamba?
De quelle démocratie nous parle-t-on? La démocratie exportée avec des obus, qu'est-ce que c'est que cette démocratie? On a pendu Saddam Hussein en Irak, on a fait un semblant de démocratie. Est-ce que la démocratie s'est donnée le pouvoir à des intégristes, à de la barbarie? Est-ce que ça va mieux en Afghanistan? Est-ce qu'il n'y a plus de champs de pavots ou de drogue qui inondent les marchés européens? Qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Les peuples, ce sont les peuples qui sont détenteurs de l'idée qu'ils veulent se faire de leur civilisation. Ils doivent s'inventer leur modèle de démocratie propre. Laissons les peuples, soutenons-les par la diplomatie si on est vraiment une civilisation occidentale. Voyez par exemple les procès de Nuremberg pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Occident défendait une certaine idée de l'humanité. On n'a pas cherché à exécuter Hitler, on a jugé convenablement les criminels de guerre. Et si même les Allemands n'avaient pas une certaine idée d'humanité, vous croyez que Paris, la capitale française, n'aurait pas été rasée? Il y a bien ce film qu'on appelle Paris brutal. Eh bien non, je ne me reconnais pas dans cette façon de faire de l'OTAN. Pour moi, c'est le retour de la barbarie, de la sauvagerie, un peu comme au Moyen-Âge, aux âges antiques. C'est ce qu'on est en train de faire. L'Occident est en crise, et depuis, la Grèce est en crise, le Portugal et tous les autres. Alors on veut faire payer la crise financière mondiale aux Africains? Eh bien, ça, cette façon de faire la guerre préventive sur plus faible que soi, c'est de la lâcheté. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy a finalement tourné le dos à la diplomatie. La diplomatie est faite pour faire progresser les choses. Il y a des pressions, il y a une manière d'organiser les choses. Depuis que Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir en France, il n'y a plus de diplomatie, il n'y a que la guerre. La guerre et la guerre. Mais les Chinois, est-ce qu'ils ont fait la guerre pour récupérer Hong Kong? Eh bien, la Grande-Bretagne leur a rendu Hong Kong. Parce que les Chinois font du commerce. Et parce que les Chinois ont de l'argent aujourd'hui, ils ne perdent pas leur temps dans des conflits interminables. Et vous croyez que les Chinois n'avaient pas la possibilité d'envahir Taïwan? Eh bien, non. Eh bien, ne soyons pas surpris si demain, ils deviennent la première puissance mondiale.
Bruno Moubamba, comment voyez-vous l'après-Kadhafi en Libye?
Eh bien, je vois une fragmentation, je vois surtout un décrochage au niveau intérieur entre les Africains et une certaine idée de la France, de l'Occident. Je vois, par exemple, comme en Somalie, on a voulu faire une opération restaurer l'espoir avec George Bush. Aujourd'hui, c'est la guerre civile, c'est les intégrismes, c'est la piraterie, c'est l'enlèvement des Occidentaux. Je ne vois pas le CNT contrôler ce pays. On a dit pareil pour l'Afghanistan, on a dit pareil pour l'Irak. La démocratie ne s'exporte pas, elle sort de la profondeur même des peuples, des âmes, de l'esprit des gens. Je vois véritablement une très très grande frustration, mais l'essentiel pour moi est, comme on dit en Afrique, les morts ne sont pas morts, ils revivent en nous. Cette image d'un Kadhafi massacré comme de la viande, comme un mouton, restera longtemps en nous, même si maintenant nous devons enlever ces images de nos écrans, de nos cœurs. Je pense que l'Occident a une supériorité militaire, mais la puissance ne suffit pas. Il faut absolument que nous nous battions pour nos droits, qu'on ne vienne pas nous voler comme cela se fait depuis 5 siècles. On tue les meilleurs des Africains, tout simplement parce qu'on ne nous considère pas comme des êtres humains dignes de ce nom. Je pense que la résistance ne fait que commencer.
Et Bruno Moubamba, Kadhafi, selon certaines informations, a été lynché jusqu'à ce que mort s'en ait suivi. Hein. D'autres sources évoquent également qu'il a été tué par les frappes de l'OTAN. Et la question a son importance pour l'ONU et qui réclame une enquête. À quoi vont aboutir, selon vous, ces enquêtes de l'ONU?
Ben c'est très simple, Kadhafi était traqué depuis des mois par des satellites américains. Vraisemblablement, il a été exécuté par un mirage français. Était-il vivant quand ils l'ont sorti pour le lyncher? Je n'en sais rien, car cela ne tienne. Il était désarmé et il n'était pas nécessaire de le tuer. De toute manière, Nicolas Sarkozy avait dit à Blaise Compaoré à Yamoussoukro le 21 mai de cette année, que même s'il perdait le pouvoir en France, il réglerait le compte de Kadhafi. Ça, nous le savons de sources très proches. Donc l'objectif a toujours été de tuer Kadhafi pour que l'Union africaine n'ait jamais d'avenir et que la recolonisation du continent africain aille de l'avant.
Une dernière question pour finir cet entretien avec vous. Selon vous, pourquoi l'Afrique n'est-elle pas prête à résoudre ses propres conflits, hein? Par exemple, la Côte d'Ivoire et aujourd'hui la Libye.
L'Afrique n'y arrive pas parce que nous sommes dirigés, pardonnez-moi l'expression, par des chiens, par des rats, par des gens qui ne sont pas au niveau. Ce sont des primates dressés à coups de fouet. D'abord, qu'il est totalement ridicule d'avoir des micro-États alors que nous devons créer des marchés intégrés, par exemple entre le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Ce qui était par exemple l'Afrique équatoriale française aurait dû rester une nation au sortir des indépendances. Ce qui était l'Afrique occidentale française, la même chose. On a disséqué ces pays pour nous affaiblir. Eh bien, on a nommé à la tête de nos États tout simplement des contremaîtres qui sont là juste pour surveiller le pillage de leur terre. Eh bien, cela a assez duré. Nous ne nous en sortons pas puisque nous ne sommes pas de vrais États. Nous ne sommes pas de vrais pays. Nous ne sommes pas des nations. Nous acceptons de nous faire appeler par des noms ridicules qui nous ont été donnés par les Portugais, que ce soit Cameroun, Gabon ou je ne sais quel Guinée. Nous sommes d'abord des Africains. Voilà ce qu'on devrait dire. Nous sommes le berceau de l'humanité. Nous devons être ensemble, solidaires et ne pas répéter comme des perroquets des discours appris par cœur auprès des maîtres. Voilà, les chefs d'État africains aujourd'hui sont comme les esclaves aux États-Unis qui vivaient dans les maisons de maîtres quand la majorité des esclaves américains travaillaient dans les champs de coton. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Nous devrions d'abord commencer par tout simplement nous débarrasser des esclaves qui travaillent dans les maisons des maîtres pour pouvoir véritablement nous libérer. Nous devons être ensemble, nous ne devons pas nous critiquer les uns les autres. Nous devons être ensemble, tous les pays doivent être ensemble. C'est le sens du mouvement des Africains français.
Bruno Mubamba, merci.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Eh bien, André Lombé, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Amos.
Merci encore une fois d'être au studio avec nous. Et je rappelle que André Lombé est docteur en télécommunication. Il est également vice-président du clan Carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-noir. Et votre siège est à Ben. C'est exact, monsieur André Lombé.
Oui, c'est tout à fait correct.
Alors, merci d'être au studio avec nous. Et vous venez de suivre Bruno Mubamba, que nous venons de recevoir en direct depuis la France. Et Bruno Mubamba qui soutient que l'objectif a toujours été de tuer Kadhafi et pour que l'Union africaine n'ait jamais d'avenir et que la recolonisation des Africains aille de l'avant. Alors, vous pensez que Bruno Mubamba a raison? La Libye ne vient-elle pas à tourner une ère de dictature pour une démocratie, André Lombé?
Par rapport à ce que Monsieur Bruno Mubamba vient de dire, je crois qu'il faudrait essayer de relativiser certaines choses. C'est vrai que Kadhafi a soutenu beaucoup de projets en Afrique, ça c'est un fait. Mais avant de continuer, j'aimerais quand même préciser quelque chose pour nos éditeurs. C'est que dans tout ce que je vais dire, je ne suis pas venu ici pour défendre Kadhafi. Hein. Il faudrait que ça soit clair entre nous. Mes propos visent à une certaine réflexion, à essayer de comprendre le mécanisme, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Pourquoi nous en sommes arrivés à ce niveau? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous en sortir? Ceci étant dit, disons cette petite précision, étant fait que je ne suis pas venu ici pour défendre Kadhafi, je vais analyser ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait du bien, ce qu'il a fait du mal, hein. Ce qu'il a fait du bien, comme nous attendons d'un chef d'État africain, c'est quoi? C'est d'abord donner à manger à sa population. C'est d'abord s'occuper de la santé de sa population. C'est l'éducation des enfants. C'est l'éducation de toute sa, des jeunes de son pays. Et ensuite, ce que nous attendons aussi, c'est la défense des intérêts du pays vis-à-vis de l'étranger. Est-ce qu'il l'a fait pour son pays? Il l'a fait. Je vais juger seulement, je juge les actes, je ne veux pas juger la personne. Et la personne, ce qu'il a fait, moi je ne l'apprécie pas, il a fait des choses qui sont bonnes pour son pays, et il a fait des choses qui sont mauvaises. Parmi les choses mauvaises qu'il a faites, j'en retiens au moins trois. La première des choses qu'il a faites, c'est d'avoir été le gendarme de la discrimination, de la migration choisie. Ça veut dire qu'il a accepté de mater les Africains pour le bien des Occidentaux, ceux qui l'ont mis là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je n'ai pas du tout appréciée chez lui, c'est effectivement la corruption du pouvoir. Lorsqu'on reste très longtemps au pouvoir, le pouvoir corrompt. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, pour en terminer, c'est évidemment ne pas avoir organisé un espace de liberté d'expression. Voilà, ce sont ces trois choses-là. Mmh. Donc, ce sont sur les faits que j'aimerais qu'on éclaircisse le message que nous allons donner à nos jeunes, à nos populations.
Mmh. André Lobé, je pense que Romain Koudjodi, notre collaborateur de l'autre côté de Bonn en Allemagne, a également quelques questions à vous soumettre. Romain, rebonsoir Romain.
Oui, bonsoir, monsieur André Louembe. Vous venez d'éclaircir les attributs de la compétence d'un président en exercice, c'est-à-dire veiller à la sécurité de la population, nourrir la population et ensuite la scolariser. Mais au-delà de cet aspect aujourd'hui, je pense à mon humble avis que dans la vie, il faut savoir toute proportion garder raison. Est-ce que vous ne pensez pas que le guide, finalement, a eu un destin tragique, un destin du martyr et du martyr au héros? Et qu'en dites-vous? Puisqu'après tout, il n'a même pas été compris par les siens, ni par l'UA, et ni par les axes du mal, c'est-à-dire les Américains et l'OTAN qui l'ont eu comme un berger allemand. Finalement, selon vous, est-ce que Kadhafi est un martyr ou un héros?
A priori, je dirais que c'est un héros. Pourquoi? C'est ça qui est beaucoup plus important. Parce que ce que vous venez de me dire, c'est l'analyse que nous entendons, ou bien c'est, je ne sais pas si on peut parler de l'analyse, c'est la propagande qui est faite pour abattre un chef d'État, quel qu'il soit africain. C'est, en général, c'est un dictateur. C'est un raccourci qu'on prend. La personne est dictateur, vous et moi, si demain nous retournons en Afrique, quelles que soient nos idées, le fait que nous ayons une autre couleur de peau, nous sommes a priori des dictateurs. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir déjà étiqueté la personne dictateur, il sera très facile de le renverser sous prétexte que c'est un dictateur. Essayez de comparer ce que lui, il a fait, c'est pour l'Afrique, c'est vraiment une image. Il a donné l'image de quelqu'un qui s'est battu pour son pays jusqu'à ne pas fuir son pays. Il a dit, je vais mourir sur le sol, dans mon sol, là où je suis né. Et il a tenu jusqu'à la fin. On est parti le tuer dans son pays. Il faut bien le comprendre au nom de l'ONU. L'ONU qui est l'organisation pour la paix et l'amitié entre les peuples. C'est au nom de l'ONU qu'il a été tué, assassiné.
Justement, parlant de l'ONU, M. André Lombé, alors Kadhafi, selon certaines informations, cette question, je viens de la poser également à M. Bruno Ben Moumaba, que nous avons reçu tout à l'heure en direct depuis la France. Et Kadhafi, selon certaines informations, a été lynché jusqu'à ce que moi, s'en ai suivi. Et d'autres sources évoquent qu'il a été tué et par les frappes de l'OTAN. Et la question à son importance. Autant c'est vous pour l'ONU hein, et qui réclame une enquête. Alors à quoi vont aboutir selon vous ces enquêtes de l'ONU?
Je crois que c'est ce qui s'est passé, c'est bien que ça soit passé comme ça parce que c'est ce que nous avons dénoncé dès le début, que effectivement le rôle de l'ONU n'est pas d'aller attaquer, faire bombarder un pays. Il faut voir qu'il y a eu des séries de mensonges. Et ces séries de mensonges ont, malheureusement, la vérité monte toujours à la surface. On nous a menti qu'on était parti protéger la population. Comment vouloir protéger une population d'un village lorsqu'on bombarde à l'aveuglette, aveuglement, cette population? Ça, c'est le premier mensonge. Et ce mensonge-là a été repris et amplifié par les médias occidentaux. Il n'y a pas de discernement. Donc, on est dans un processus de manipulation. Ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge, qu'est-ce qu'on nous a dit? Puisque on n'a pas Kadhafi, on ne le trouve pas, on va continuer la guerre, mais à l'aveuglette. C'est devenu un jeu télévisuel de montrer comment on tue une population. C'est horrible ce que j'ai vu à la télé. C'est pas un monde civilisé, c'est pas normal. Mmh. On montre à la télé comment des jeunes avec des armes à la main tirent vers des immeubles. Regardez les immeubles, comment on a bombardé avec n'importe quelle arme. C'est inhumain ce qui s'est passé.
Je pense que Romain a une dernière question. Romain?
évidemment. Et finalement, pour conclure, peut-on dire que l'OTAN a raison de pouvoir bombarder et faire insurrection jusqu'à ce que mort s'en suit pour le guide, ou peut-on dire que bravo, l'OTAN a sauvé la Libye?
Pour répondre à votre question, si vous me dites que l'OTAN a sauvé Afghanistan, si l'OTAN a sauvé l'Irak, si l'Irak est démocratique, si le peuple est mieux maintenant qu'avant, alors je crois que l'OTAN aura fait quelque chose en Libye. Malheureusement, on a bombardé, on a tué une population. Il ne faut pas se tromper. Il faut bien voir les images qu'on nous montre à la télé. Ce sont des insurgés qui sont là avec des armes, un groupe d'insurgés avec leurs amis, leurs copains. On nous montre, on dit qu'ils sont représentatifs de la population. Est-ce qu'on peut imposer à une population des gens pour dire que ces gens-là sont votre sont vos représentants? C'est inhumain. Qui a donné le droit de vie et de mort à ceux qui sont intervenus pour tuer la population, pour leur imposer des dirigeants?
Oui, André Louambé, le temps est malheureusement contre nous. Et alors, une dernière question. Comment voyez-vous l'après-Kadhafi en Libye?
Je crois qu'il faut tirer des leçons de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, ça va être à l'image, malheureusement, de le constater, à l'image de l'Irak. Le pays va être détruit. Les gens qui ont soutenu la population, qui a profité, la population libyenne, va continuer de se battre. Il y aura une division dans le pays. Le pays va être détruit. Il y aura beaucoup de... le CNT, disons, le groupe actuel, n'est pas un groupe capable de diriger un pays. Pourquoi? Vous vous souvenez? Le racisme, on a tué, on a massacré, dès qu'il y a eu l'insurrection, on a massacré des Africains. Ce n'est pas encore jugé. On a massacré la population, ce n'est pas encore jugé. Nous appelons à l'ONU de prendre ses responsabilités et que tous ces assassins doivent être traduits devant des tribunaux. Ça, il faudrait qu'on le fasse. Ça, c'est la première leçon. La deuxième des leçons, c'est que l'Afrique doit le savoir. Les jeunes Africains doivent le savoir, la coopération qui constitue selon moi à tuer les fils de l'Afrique doit prendre fin. Ils doivent le savoir, ce n'est pas une coopération d'amitié entre des États. On vient vous tuer, on vient nous tuer. Quand on n'est pas d'accord, on nous lance des bombes sur la tête. Ça, il faudrait le savoir et prendre ses responsabilités, refuser, dire non, nous ne voulons plus de ça.
Je pense que le message est passé dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. André Louambé, je rappelle, est docteur en télécommunication. Il est également vice-président du CRAN, Carrefour d'Action et de Réflexion contre le racisme anti-noir, qui a son siège ici même à Rennes. Alors, pour toute information sur le CRAN, vous pouvez aller sur son site. C'est le 3xw.cran.ch, CARN, c'est le CRAN. Donc, je pense que nous allons nous donner rendez-vous dans quelques mois, dans quelques semaines, pour d'autres actualités africaines dans Fenêtre sur l'Afrique. André Lombé.
Je vous remercie de m'avoir invité. Et puis, merci beaucoup pour ce que vous faites pour l'information de l'Afrique, parce que je pense que nous, jeunes, nous en avons besoin pour et comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup.
Eh bien, nous allons maintenant, avant de recevoir plutôt notre invité du Cameroun pour parler de l'élection présidentielle au Cameroun, nous allons faire un tour d'abord au Togo et pour le briefing de l'actualité politique au Togo avec notre correspondant Rudy Lawson qui est déjà en ligne. Rudy Lawson, bonsoir.
Bonsoir Sylvain, bonsoir aux auditeurs de Radio-Canada.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Rodrigue, les audiences de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, ont débuté jeudi dernier à Thiviers, 35 km au nord de Lomé. Alors, vous qui êtes sur le terrain à Lomé au Togo, dites-nous concrètement dans quelle atmosphère se font ces audiences publiques et privées de la CVJR?
Tout à fait, Sylvain. Le président Nicodème Barida poursuit sa mission, hein, celle qui consiste à baliser la voie aux Togolais pour une réconciliation. Et donc, après Daparon, Tara, Sokodé, Atakpabé et Sévié, la commission s'apprête à rallier la ville d'Anego, théâtre, rappelez-vous, de plusieurs actions en 2005. Les audiences publiques et où une caméra se tiendront à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de la ville. Et depuis l'ouverture des audiences, beaucoup de Togolais restent indifférents quant à l'issue du processus, tant les différentes étapes ont été maillées d'incidents. Et rappelez-vous de cette sortie inopinée et hasardeuse des forces armées togolaises pour balayer d'un revers de main les propos de maître Joseph Kwaku-Kofigo, l'ex-premier ministre de la transition sur les événements de 91 à la primature. Un comportement vivement protesté à l'époque par le président de la commission, Monseigneur Nicodème Barriga. Après, les forces armées togolaises sont revenues à la charge, s'agissant donc de l'attentat de Soudou, par exemple, qui a failli emporter les opposants historiques du Christ Olympio. Aujourd'hui, tout le monde le sait, puis est lié au rassemblement du peuple togolais. Les forces armées togolaises ont laissé entendre dans un droit de réponse que les militaires qui ont attenté à la vie de Christ Olympio étaient des éléments incontrôlés. Bien entendu, des propos qui ont choqué l'opinion quand on sait que le commando de l'attentat n'était qu'un certain fils du feu général Yadema, le feu Ernest Nyasimbe, à l'époque chef de la garnison des Bérets Rouges de Temedja à Atakpamé. C'est surtout l'état justement d'Atakpamé qui a le plus conforté bon nombre de Togolais dans l'échec de cette réconciliation. Atakpamé, en effet, plusieurs victimes lors des auditions ont cité sans surprise le major Koulum, un conditionnel du RPT dans les violences de 2005. On retiendra cette phrase de ce jeune homme dont son papa a été froidement abattu par les milices du RPT commandées par le major Koulum. Je cite, le major Koulum a demandé aux jeunes du RPT de rentrer dans les maisons et de tuer tous ceux qui sont du Sud. Voilà, fin de citation. Des accusations rejetées aussitôt en bloc par le major Koulum qui se dit plutôt être victime des violences des jeunes de l'opposition. Le comble, Sylvain, c'est qu'il compte porte plainte contre tous ceux qui l'accusent des actions à Atakpamé et demande à titre de dommage 3 millions de francs CFA. À cette allure, me disait un confrère hier, je cite, les Togolais ne seront pas surpris de l'étape de l'OMM si les forces armées togolaises laissaient entendre que ce sont les éléments incontrôlés qui ont mitraillé tout ce qui bougeait en avril 2005 au quartier Bergne, Konakwek, Kodjakopé ou autre. Drôle de réconciliation, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, drôle de réconciliation. Alors, Rodrigue, la quatrième réunion ordinaire du cadre permanent de dialogue et de concertation CPDC rénovée s'est déroulée jeudi dernier à Lomé à la primature. À l'exception de l'ANC, du CAR, du PPR et tous les autres partis ont pris part à cette séance. Alors, que retenir des travaux du CPDC cette semaine à Lomé, Rodrigue?
Tout à fait. La quatrième réunion du cadre permanent de dialogue de concertation s'est tenue jeudi, vous l'avez dit, à la primature, toujours en absence des poids lourds de l'opposition, notamment à l'ANC, le cas. Selon le porte-parole du gouvernement, la question du choix du régime politique était à l'ordre du jour. Des détails précis sur la question n'ont pas été livrés à la presse. Il faut peut-être rappeler que l'attelage RPT-UFC avait quelques mois plus tôt trouvé une alchimie pour le régime présidentiel qu'ils appelaient à l'époque régime présidentiel tempéré. En tout cas, la majorité des Togolais ne se retrouve pas dans ce cadre qu'ils jugent non représentatif. C'est là, pour être un peu plus précis sur les formations politiques qui se réunissent hebdomadairement, dans ce cadre, on peut noter entre autres la présence quasi irrégulière de la CDPA, de l'UFC, de la CPP, du PDR, du REFAMP et de la GFDD.
Oui, et le FRAC, Front Républicain pour la Tendance et le Changement, est toujours dans les rues de Lomé et pour son habituelle marche de protestation. Alors, Rodrigue Lawson, quel a été le message concret qui a sanctionné cette manifestation à Lomé ce samedi à Lomé?
L'essentiel de ce qu'on peut retenir ce matin, après la traditionnelle marche, le traditionnel meeting, c'est la question du retour des 9 députés ANC au Parlement. Jean-Pierre Fabre, tout à l'heure, a réaffirmé leur détermination en se référant, bien entendu, de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO à retourner au Parlement Et vous savez que le gouvernement s'y oppose. Et justement, sur ce refus du gouvernement, l'ANC soutenu par le FRAC brandit la rue pour mettre la pression sur le pouvoir. S'il refuse de nous réintégrer, vous, peuple togolais, vous nous réintégrerez, a dit en substance ce matin le président de l'ANC. Jean-Pierre Fabre a profité également pour dénoncer la séquestration dont il a fait l'objet jeudi justement dernier. En effet, le leader de l'opposition a été marqué à la culotte par les éléments de la gendarmerie qui ont encerclé son domicile alors qu'il avait un rendez-vous, selon nos informations que nous avons pu réunir avec un diplomate américain.
Oui, Rodrigue, pour finir, parlons un peu du sport au Togo. Alors, la reprise du championnat de football de première division a repris à Lomé au Togo après 2 ans de rupture et de crise au sein de la Fédération togolaise de football.
Oui, c'est vrai, après 2 ans de léthargie, d'un sommeil profond, les acteurs vont renouer enfin avec la compétition. La première journée se joue justement ce week-end. Les 18 clubs sont qualifiés pour cette compétition et sont dotés chacun de 10 millions de francs CFA, soit 5 millions alloués par le gouvernement togolais et 5 millions par la Fédération togolaise de football.
Rudy Lockson, merci. Les résultats provisoires du scrutin présidentiel est connu depuis hier. Au Cameroun, Paul Biya, candidat à sa propre succession, est réélu à 77,98% des suffrages. Ces résultats suscitent de vives indignations au sein de la population qui attendent toujours une alternance politique au Cameroun. Rappelons que le président sortant, Paul Biya, avait brigué un 6e mandat et fait déjà 29 ans au pouvoir. Ce scrutin présidentiel est truqué d'avance selon l'ensemble de l'opposition. En allant en rang dispersé à cette élection, l'opposition camerounaise savait pertinemment leur chance de la remporter minable. Juste après cette élection, une coalition de l'opposition composée de 7 candidats au scrutin présidentiel a appelé lundi dernier la population à sortir dans les rues au cas où cette élection n'est pas annulée. Une union de l'opposition qui a surpris plus d'un observateur tant dans l'opinion nationale qu'internationale. Et pour l'heure, le peuple attend toujours une alternance politique avec des dénonciations avérées ou non de corruption des opposants par le régime en place. Et pour parler du contentieux électoral au Cameroun, nous recevons dans un instant ou tout de suite en ligne, en direct depuis le Cameroun, une candidate de l'élection présidentielle du 9 octobre dernier et qui demande l'annulation pure et simple du scrutin présidentiel. Madame Kawala, bonsoir.
Bonsoir aux auditeurs de Canal 15.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci d'être en direct avec nous depuis le Cameroun. Alors, Kawala, vous êtes candidate du Cameroun People's Party à l'élection présidentielle du 9 octobre passé au Cameroun. Vous faites partie, tout comme l'opposant historique John Frundi, du groupe de candidats de l'opposition qui demande l'annulation pure et simple de l'élection présidentielle, alors que la Cour suprême vient de rejeter jeudi dernier tout les recours en annulation du scrutin. Alors, Paul Biya vient d'être réélu à la tête du Cameroun et vous dites que cette élection doit être annulée. Pourquoi, Madame Kawala?
L'élection a été truffée d'irrégularités et de fraudes. Vous avez une élection où, sur le fichier électoral, vous trouvez les noms des personnes, de centaines, de milliers de personnes. Vous trouvez leur nom plusieurs fois sur la liste électorale. Vous avez une élection où des cartes électorales ont été produites pour une personne 3-4 fois. Vous avez une élection où de centaines de milliers d'électeurs n'ont pas pu récupérer leur carte électorale et le jour du vote étaient encore à la recherche de leur carte électorale. Vous avez une élection où l'encre indélébile qui était supposée être utilisée pour contrôler, pour que les gens ne votent pas 2 fois, n'était pas du tout indélébile. Une élection où les scrutateurs de l'opposition ont été pourchassés des bureaux de vote, mmh. où les gens ont été payés pour voter. Donc une élection qui a tellement d'irrégularités, tellement de fraudes, et ce sur le territoire national, qu'on ne peut pas considérer qu'il y a eu une élection le 9 octobre au Cameroun.
Oui, et Kawala, vous appelez la population camerounaise à manifester si l'élection n'est pas annulée. Hein. Et déjà, cela a suscité un froulélége de réactions du côté du pouvoir. Et René Sadi, secrétaire général du parti au pouvoir, RDPC, hein, appelle également les Camerounais à ne pas céder à la provocation. Est-ce que vous pensez que les Camerounais veulent vraiment revivre les événements douloureux des années 90?
Je pense qu'il ne s'agit pas de revivre les événements des années 90. Les événements des années 90 ont permis, parce que le peuple camerounais s'est manifesté, nous ont permis d'accéder au multipartisme. Aujourd'hui, nous sommes à une phase où il faut établir véritablement la démocratie au Cameroun avec un système électoral qui est fiable. Le gouvernement Biya a démontré depuis 20 ans qu'ils n'ont ni la volonté politique ni la capacité de mettre en place de telles élections au Cameroun. Donc ces élections seront mises en place à partir du moment où le peuple camerounais manifeste son désir et son intention pour qu'on ait des élections transparentes et libres au Cameroun. Ça c'est clair.
Oui, et Kawala, et que répondez-vous alors à certains Camerounais qui pensent qu'il n'y a personne dans le rang de l'opposition et capable de diriger le pays après le départ de Paul Biya?
Moi, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Si on estime que sur les 19 millions et poussière des Camerounais, il n'y a personne qui est capable de faire mieux que Biya, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Monsieur Biya a réussi à mettre 40% de la population camerounaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté, un Camerounais sur deux qui n'a pas accès à l'eau potable, un Camerounais sur deux qui n'a pas accès à l'électricité, des indicateurs de santé qui ont reculé et qui sont au stade en ce qui concerne par exemple la mortalité infantile où nous étions il y a 50 ans. Je crois qu'il y a bien de personnes, plus d'une personne, qui sont capables de mieux diriger le Cameroun que cela. Sous Biya, nous avons été numéro un en une seule chose, la corruption. Je crois que nous sommes, il y a plusieurs personnes qui sont capables de faire mieux que ça.
Madame Kawala, et l'opposition camerounaise est allée encore, comme d'habitude, en rang dispersé à l'élection présidentielle de cette année. Alors, juste après cela, elle veut se dire, qu'est-ce qui l'avait empêché de former un bloc contre Paul Biya? Est-ce que l'opposition camerounaise est sérieuse, Kawala?
Je crois qu'il faut qu'on distingue entre deux choses. En Afrique, on dit toujours aux oppositions, il faut se mettre en place pour combattre un dictateur, pour combattre un système qui est corrompu. Alors, est-ce que le rôle des opposants, c'est de contrôler les élections ou bien est-ce qu'il faut mettre en place de bonnes élections? Ce n'est pas la faute, ce qui s'est passé le 9 octobre, ce n'est pas la faute à l'opposition. Ce n'est pas la faute à l'opposition qu'on était en train d'acheter les électeurs. Ce n'est pas la faute à l'opposition que le gouvernement en place a refusé d'utiliser la technologie, une inscription biométrique, que le gouvernement en place a refusé le bulletin unique. Tous ces éléments qui pourraient permettre de ne pas avoir des élections frauduleuses. Donc, je crois qu'il faut qu'on mette bien les responsabilités là où ils sont. Le combat pour tout le peuple camerounais, et aujourd'hui aussi, si on considère que c'est le combat des opposants, ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'il ne s'agit pas d'un combat pour quelques personnes qui sont dans les partis politiques, il s'agit d'un combat pour tous les Camerounais, pour avoir un bon système électoral qui permettra alors à tout Camerounais qui veut se présenter de se présenter aux élections en sachant que le meilleur va gagner. Là, pour tous qui disent qu'on est parti en rang dispersé, M. Biya s'est accordé une victoire à 80%. Alors, toute l'opposition réunie aurait eu 20%. Il aurait toujours gagné. Donc le problème n'est pas dans que tous les opposants se mettent ensemble. Le problème est à avoir un bon système électoral qui est capable de nous produire un chef d'État qui est légitime face à la population.
Oui, et Kawala, de l'avis de Madame l'ambassadrice américaine au Cameroun, le scrutin n'a pas été régulier. Hein, mais en revanche, la France pense, quant à elle, que le scrutin est globalement satisfaisant. Alors, quel commentaire faites-vous, Madame Kawala?
Moi, je dis d'abord, pour nous les Africains, il faut qu'on arrête de chercher les yeux des autres pour nous dire si quelque chose est correct ou pas correct. Les Camerounais ont vécu cette élection. Ils sont capables de dire est-ce que c'était une élection dont on peut être fier ou pas. Est-ce que c'est normal, tout Camerounais que nous sommes, est-ce que nous pensons que la norme pour notre pays, c'est d'avoir des élections où une personne a 3 cartes électorales? Est-ce que nous pensons que c'est normal de trouver des personnes qui ont voté 18 fois, 28 fois, 30 fois? Si nous pensons que cette norme est OK, on n'a pas besoin d'un Français ou un Américain ou qui que ce soit pour venir nous le dire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les Africains, l'essentiel, c'est qu'on prend notre destin en main. On n'a pas besoin des étrangers pour nous dire si l'élection était bonne ou pas. Donc, franchement, je suis plus préoccupée par comment les Camerounais ont vécu cette élection, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'avenir de leur pays?
Justement, Kawala et Paul Biya viennent d'être réélus. Alors, comment réagit cette population camerounaise par rapport à ce 10e coup de gorge de Paul Biya?
Alors, pour l'instant, la population est, je peux dire, elle est complètement... pratiquement pas concernée par l'élection. Hier, c'était l'annonce de résultats. Tout le monde battait à ses occupations. Le gouvernement, par peur de je ne sais trop quoi, a mis toute la nation sous état de siège. Il y avait des policiers partout, des forces armées partout, etc. Mais les Camerounais, alors c'est très intéressant, dans un pays où le président vient d'être élu à 80%, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de célébration, on n'a pas l'impression d'un nouveau départ dans un pays. Voilà, pour le moment, c'est le calme absolu.
Et une dernière question, et cela concerne quand même l'actualité qui oblige, hein, et cela concerne la mort de Kadhafi. Alors, quelle analyse faites-vous, Madame Kawala, et sur la crise libyenne qui a conduit à la mort du guide libyen Kadhafi?
Écoutez, encore une fois, je crois qu'en tant qu'Africain, nous constatons qu'à chaque fois que nous sommes incapables de gérer nous-mêmes l'alternance au sein de nos pays, nous ouvrons la porte à des personnes venant d'autres continents pour venir s'ingérer, et généralement, ils s'ingèrent de manière en fonction de leurs propres intérêts, ce qui est comment fonctionne le monde. Donc aujourd'hui, je crois que la grande leçon pour nous tous en tant qu'Africains, c'est que si nous voulons une véritable indépendance, si nous voulons le véritable contrôle sur nos ressources, si nous voulons pouvoir définir pour nous-mêmes notre destin, il n'y a personne qui va venir le faire à notre place. Nous avons besoin, en tant que peuple, dans ces différents pays, de prendre notre destin en main. Et plus nous restons immobiles, plus nous restons amorphes, et bien plus, après 50 ans, 50 ans après les indépendances, plus on va avoir d'autres personnes venant d'ailleurs qui vont une fois de plus prendre en charge pour nous notre avenir.
Merci beaucoup Kawala d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique depuis le Cameroun. Je rappelle à nos fidèles auditeurs de Radio Canal K que vous êtes candidate au Cameroun, vous êtes candidate à l'élection présidentielle du 9 octobre dernier.
Je ne suis plus candidate, c'est fini là.
Et vous avez été candidate à l'élection présidentielle du 9 octobre 2011 dernier au Cameroun. Je pense que vous êtes présidente du Cameroun People's Party.
C'est ça.
Merci beaucoup et excellente soirée à vous.
Merci, à vous pareil.
Retour au studio dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous sommes également arrivés à la fin de cette émission. Vous pouvez également réécouter dès déjà sur nos sites d'information partenaires www.togocity.com, www.icilomé.com, www.cvu-togo-diaspora.org. Cette émission sera également rediffusée sur notre radio partenaire Légende FM demain dimanche à 18h à Lomé au Togo. Merci et excellente soirée à toutes et à tous. Mais avant de vous quitter, cette citation est pour réveiller quand même la conscience de tout Africain averti. Et c'est la citation de Jomo Kenyatta. Il dit, lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. C'est sur cette citation de Jomo Kenyatta que nous prenons congé de vous. Excellente soirée à toutes et à tous. Sylvain Amos, Romain Koudjordi, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Rudy Larson, Fabi Kwasi.